RCF. L'invité du soir sur RCF en Normandie, Catherine Manet.
Bonsoir à tous et ce soir une interview à deux voix avec Guillaume Lemoine qui partage mon micro. Guillaume que vous entendez le matin sur notre antenne et qui est un passionné de football. Alors vous l'avez compris, on parle foot ce soir mais sous un angle un peu particulier avec notre invité Père Dominique Lebrun. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de votre présence physiquement ici au micro de RCF en Normandie. Alors pour une fois ce n'est ni l'église diocésaine ou métropolitaine dont on va parler mais plutôt de ballon rond. On l'entend derrière en fond sonore, on a trouvé un petit son du stade de Liverpool, voilà, pour se mettre un peu, pour se chauffer un peu, se mettre dans l'ambiance. Alors je le disais, Père Dominique, en teasant, comme on dit en radio, cette interview, vous avez été arbitre, joueur d'abord, puis arbitre officiel de 1985 à 1997, d'abord au district de Saint-Denis, puis à la Ligue d'Île-de-France. Alors, toute première question, Père Dominique, quand votre agenda le permet, bien sûr, est-ce que vous continuez à suivre le foot? Est-ce que vous-même vous jouez de temps en temps?
Bon, ça fait bien longtemps que, enfin bien longtemps, ça fait quelques années que j'ai pas eu l'occasion d'arbitrer un match. Je l'ai fait quand même dans le diocèse de Rouen quand il y a eu des tournois interparoissiaux. Donc je suis venu volontiers faire arbitrer et c'est toujours un grand plaisir. J'ai gardé ma tenue d'arbitre qui est toujours dans mon placard.
Alors, de quoi elle se compose cette tenue justement? Alors sifflet, le fameux sifflet.
Alors le sifflet, bien sûr, le short, bien sûr, toute la tenue et y compris les cartons, bien sûr, les cartons jaunes, les cartons rouges. À un moment, on m'a muni aussi d'un carton vert, mais je crois que l'usage n'a pas perduré.
D'accord. Guillaume Lemoine.
Bonsoir à tous. Déjà, ça me fait bizarre de vous dire bonsoir.
Vous êtes plutôt habitué au bonjour.
Quand j'arrive dans le studio, il est plutôt 6h du matin, plus que 6h du soir. Mais du coup, Père Dominique, bonsoir. Alors moi, j'avais une première question en tant qu'amateur de football et en tant que futur joueur professionnel... raté et stoppé dans son élan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir arbitre? Parce que les petits garçons rêvent plutôt de devenir les futurs Zidane, Maradona ou Platini. Qu'est-ce qui vous a plutôt poussé vers le sifflet?
Alors, c'est vraiment l'occasion, en Italie, quand j'étais séminariste, dans la paroisse où j'étais, il y avait besoin d'un arbitre. Et en Italie, le football est obligatoire hein, dans toutes les paroisses. Et je me dis pourquoi pas essayer. Et j'ai trouvé cette place de l'arbitre assez intéressante. En fait, c'est celui qui permet que la partie se déroule bien. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et puis donc, après mes études, après le séminaire, je suis rentré en France, en Seine-Saint-Denis, qui était mon diocèse. Et j'ai cherché à faire un peu de sport, à continuer à courir pour m'entraîner un peu, puis pour faire du sport. Mais j'avais du mal, et je sentais que j'avais envie de trouver des gens avec qui faire du sport. Voilà. Et puis c'est la radio. J'ai entendu à la radio que les clubs de foot cherchaient des arbitres. Parce qu'en fait, peut-être que les gens ne le savent pas, dans les clubs amateurs, un club de foot doit fournir des arbitres qui, bien sûr, ne vont pas arbitrer leur propre club. Et s'ils ne le font pas, ils ont une amende.
Alors, donc chaque club a un arbitre?
A plusieurs arbitres.
Ah d'accord. Les petits clubs?
Même les petits clubs.
D'accord.
Parce qu'ils ont besoin il faut fournir des arbitres au tournoi, au championnat. Et ensuite, après, donc, on relève non plus du club, mais on est présenté par le club. Et c'est le district de football, la Fédération française, qui vous assume. Et après, qui vous envoie votre convocation pour aller le dimanche sur un terrain ou un autre arbitrer.
Et quand vous étiez arbitre, ou vous avez en tout cas démarré cette formation, vous étiez déjà prêtre, Père ?
Oui, j'étais déjà prêtre. Donc c'est une formation comme un brevet de secouriste, d'une certaine manière. Vous avez des cours du soir pendant 6 mois, il me semble me rappeler, toutes les semaines. Des examens blancs. Et puis vient le jour où il y a un examen théorique et ensuite un examen pratique. Donc, comme un examen de secouriste, on vous met en situation, vous avez un inspecteur qui est sur le bord du terrain et qui valide ou pas votre brevet, en quelque sorte, d'arbitre. Et après, voilà, c'est d'année en année, vous avez une inspection et puis éventuellement, vous montez de catégorie si vous êtes bon.
Et vous arriviez à faire coïncider votre emploi du temps de jeune vicaire à l'époque dans le diocèse de Saint-Denis avec les feuilles de match, ça ne devait pas être si évident que ça.
Oui, alors je dois dire que je pense que j'arbitrais seulement 3 dimanches par mois à peu près, hein, parce qu'il y avait effectivement des dimanches après-midi où c'est devenu impossible. Et il y avait dans la paroisse où j'étais une messe à 18h. Alors c'était un peu compliqué, surtout s'il y avait un baptême après la messe de 11h. Mais c'était possible parce que à ce moment-là, je demandais éventuellement à faire un levis de rideau. Donc c'est-à-dire le match de 13h à peu près. À ce moment-là, je filais pour faire le match de 13h ou bien je prenais le match de 15h. Mais évidemment, la complication du match de 15h, s'il n'était pas trop loin, c'était possible d'arriver pour la messe de 18h. Mais je prenais un risque si le match ne passait pas très bien. Voilà. Parce que là, effectivement, il faut quand même rester, commencer à faire son rapport. Parce que vous savez, quand un arbitre donne un carton jaune ou un carton rouge, derrière,
justifier.
Il fait une page d'écriture,
oui, c'est ça.
Hein, pour expliquer ce qui s'est passé.
Et justement, est-ce que votre rôle d'homme d'église vous aidait sur le terrain et vice-versa ? Est-ce que être un homme d'action qui réglemente le terrain vous aidait aussi dans l'église?
Alors, ce que j'aimais, alors d'une part vraiment, ce que je tiens à dire, c'est que moi je l'ai fait vraiment pour faire du sport, quoi. Je l'ai fait vraiment par goût, etc. Mais évidemment, ça a un sens, hein, d'être arbitre de foot ou d'arbitre de manière générale, j'imagine. Je dirais la première chose, c'est que je connaissais mieux l'emplacement des terrains de football de mon diocèse que les églises. Parce que dimanche après dimanche, j'allais. Et puis, ce qui était intéressant, c'est que même si quand j'arrivais, j'étais habillé comme je le suis aujourd'hui avec un col romain. Mais quand un homme arrive une heure avant le match avec un sac de sport, immédiatement le gardien du stade ou les dirigeants disent bonjour monsieur l'arbitre et m'ont jamais dit bonjour mon père. Et ne voyait pas que j'étais prêtre. C'est que après le match, quand je me rhabillais, ah mais vous êtes curé alors.
C'est l'occasion d'échange peut-être à ce moment-là.
Et c'était l'occasion d'échange. Mais c'est intéressant de voir comment quand on est dans un monde, hein, voilà, quand on est pris par son sport, par sa passion, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est le sac de sport que l'homme qui est tout seul arrive. Et quand on arrive tout seul à un stade, on est arbitre.
Et du coup, est-ce que quand ils vous revoyaient le match d'après, ils hésitaient à simuler, ils faisaient plus attention, ils étaient plus studieux ?
Alors, en fait, j'ai souvent monté de catégorie, si j'ose dire, et j'ai rarement retrouvé les dirigeants, parce que voilà, en Île-de-France, il y a énormément de clubs, énormément de matchs, et j'ai peu retrouvé. Ça, c'est arrivé quelquefois qu'il y ait effectivement des liens qui se passent. C'était plutôt quand j'étais dans des catégories un petit peu plus élevées, où alors là, on était trois arbitres officiels. Et là, du coup, on faisait un peu équipe et on se retrouvait. Ça, c'était aussi assez intéressant.
Père, vous évoquiez quelques souvenirs que vous étiez heureux de nous partager. Qu'est-ce qui vous a marqué et peut-être un souvenir bon ou moins bon, enfin celui que vous avez envie de nous partager ce soir d'arbitrage?
Alors, il y a beaucoup de souvenirs parce que c'était toujours des rencontres très très touchantes. Moi, j'ai beaucoup admiré les dirigeants de football, par exemple, hein, leur générosité, c'est quand même, j'avais presque envie de dire un sacerdoce pour un certain nombre d'entre eux, hein, de vraiment se consacrer à l'éducation de la jeunesse, et beaucoup vraiment le faisaient par éducation. Alors, j'ai un de mes formateurs, hein, avec qui je correspond presque toutes les semaines, lui au moins m'envoie des choses presque toutes les semaines. Il est retiré maintenant en Bretagne, un homme que voilà, j'admirais beaucoup, Jean-Claude, et que je suis heureux de saluer. Je me souviens à la fois de faits de jeu, si vous voulez, le dernier match que j'ai arbitré, ce qu'il faut jamais faire, hein, mais j'ai senti que ma décision était pas juste. J'avais j'avais attribué une sortie de but. Donc voilà, c'était au gardien, enfin à l'équipe défendante de tirer aux 5m50. Et j'ai senti que c'était corner, j'avais dû me tromper. Donc, je me suis approché du gardien et je lui ai dit, vous en pensez quoi ? Et il m'a dit, c'est corner. Voilà, donc, mais il ne faut jamais, évidemment, demander aux joueurs ce qu'il fait. Mais c'était mon dernier match. J'étais assez détendu, mais j'avais envie. Et voilà, et c'était beau. Et c'était beau parce qu'il y a eu une évolution, quand même, dans les règles. Peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais les règles de football changent chaque année. Alors, les douze lois du football sont toujours les mêmes, et puis après, ça se décline.
D'accord.
Qu'est-ce que l'arbitre doit faire dans telle circonstance et dans telle autre. Il y a une loi qui a changé fortement, je crois, dans les années 91-92, quand le ballon sort du terrain latéralement, donc on appelle sortie de touche, rentrée de touche, on fait la rentrée là où le ballon est sorti. Et par l'équipe adverse qui n'est pas celle qui a touché le ballon, qui l'a mis dehors. Il se peut que on fasse la rentrée de touche pas au bon endroit exactement, à 2 mètres plus loin, 2 mètres aussi peut-être parce que ça arrange, mais peut-être aussi parce qu'on se trompe. Quand j'ai commencé l'arbitrage, si c'était pas au bon endroit, on siffle et on refait faire la touche par la même équipe, en présumant que la personne s'était trompée, mais qu'il n'y avait pas malice, qu'il n'avait pas essayé de gagner du terrain d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, eh bien, c'est le contraire. On pense qu'il a fait exprès de tromper. Donc il y a sanction. Donc la touche est refaite par l'équipe adverse. Ça m'a chagriné, parce que je me suis dit, voilà, cette présomption d'innocence, cette bienveillance par rapport aux joueurs aussi. Et on voit bien, alors moi je n'ai pas connu ça, c'est au niveau un peu professionnel, hein, mais voilà, maintenant il y a quelque chose qui dit qu'on peut sanctionner les simulations. Voilà, que c'est du jeu incorrect. Ça veut dire qu'on présume que des joueurs se laissent tomber. Malheureusement, on a des ralentis, des joueurs professionnels qui montrent que c'est vrai. Mmh. Voilà.
Mais c'est plus fréquent aujourd'hui, vous diriez, Père Dominique, qu'autrefois. Vous avez l'impression que ça arrive plus souvent.
Je sais pas, mais c'est l'engrenage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que l'arbitre va aussi juger si on triche ou si on triche pas, eh bien, ça peut entraîner, c'est le petit jeu, pour essayer de effectivement tricher sans que ça se voit. Hein, je trouve qu'il y a, c'est plus l'engrenage de principe qui me gêne. Je ne sais pas si c'est plus que maintenant.
Comment est-ce que vous regardez un match, là tout à l'heure, ça va être l'équipe de France contre l'Australie. Quel regard vous portez ? Est-ce que vous êtes vraiment dedans ou est-ce que vous gardez justement votre sifflet ?
Alors, bonne question. Alors, quand c'est l'équipe de France en particulier, j'ai un peu de mal et parfois même j'arrête avant la fin du match parce que ça m'énerve trop. Voilà. Mais surtout, je dois dire que je regarde beaucoup l'arbitre. Voilà. Mmh. En fait, je regarde beaucoup ce que fait l'arbitre, ça m'intéresse, son positionnement. Vous savez, on fait normalement un zigzag d'un angle à un autre, parce qu'on a aussi les juges de touche qui nous aident. Enfin, il y a une vraie technique hein, du juge de touche et de l'arbitre central. Ça s'apprend, quoi. Hein. Et puis, on voit enfin aussi des développements, des placements qui ont un peu changé. Voilà.
Est-ce qu'il y avait déjà une volée de joueurs qui arrivaient à toute vitesse dès que vous aviez sifflé une action avec laquelle ils n'étaient pas d'accord?
Alors ça, c'était toujours intéressant. Ça, c'est la réaction des joueurs quand et là, il faut beaucoup de psychologie de la part de l'arbitre. Hein. C'est-à-dire que il faut en même temps se montrer ferme et en même temps joueur, hein, parce que c'est un jeu quand même. Hein. Donc, il faut aussi qu'on n'est pas des juges, on n'est pas des policiers, on n'est pas des gendarmes. On est dans une autre catégorie. On a envie que le match se passe bien, mais on sait que tout le monde a envie. Mais il faut qu'il y en ait un qui décide. Donc, et des fois, on peut rater son match. Et de fait, on peut être dans la contestation. Alors, on m'avait dit, dès la formation, on m'a dit, vous savez, si quand vous quittez un match, il y a une équipe qui vous fait la tête, c'est pas grave. Si on a deux, il faut peut-être vous poser des questions quand même.
Justement, ça c'est une vraie question, Père Dominique. Les arbitres, il y a une formation continue, j'imagine, tout au long une fois arbitre. Et comment, justement, ces instances contrôlent aussi les matchs? Est-ce que certains arbitres sont sanctionnés? Guillaume, en préparant cet entretien, m'expliquait qu'il y avait, comme pour les équipes, un classement des arbitres qu'ils peuvent aussi...
Voilà, on est noté. Hein. Donc, il y a une formation continue. On a des cours chaque année, des examens, un examen théorique qui nous oblige à nous maintenir. Et puis, on est inspecté une ou deux fois par an avec une notation. Et en fonction de ce classement, en fin d'année, on peut monter dans la catégorie supérieure ou pas, ou rester dans la catégorie on est, ou descendre même parfois. Mm-hmm. Ce qui est d'ailleurs... pas très juste, parce que les catégories les plus basses sont parfois les plus difficiles à arbitrer. D'une part, parce que les premières catégories, il y a un seul arbitre officiel, c'est donc les équipes elles-mêmes qui fournissent le juge de touche. Donc voilà, c'est
ça, disons, peut être un peu
c'est un peu partial, voilà, ça peut être un peu partial. Et puis les joueurs connaissent moins bien les règles, d'une certaine manière. Alors que plus on monte, plus eux-mêmes sont formés, plus ils sont respectueux.
Alors Catherine évoquait tout à l'heure le match de l'équipe de France qui va démarrer dans un peu plus d'une heure. Au vu de votre réponse, j'ai cru comprendre que vous n'alliez pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Alors je pense à mon cas personnel et peut-être au cas de nombreux auditeurs qui se posent la question, est-ce qu'il faut boycotter ou est-ce qu'on peut regarder les matchs de la Coupe du Monde du Qatar tout en sachant ce qui s'y passe ?
Moi, évidemment, c'est compliqué parce que, comme je suis évêque, ma réponse pourrait être prise comme une injonction ou au contraire une permission, et je m'en garderai bien parce que c'est, je veux dire, ça regarde chacun et puis la conscience de chacun. Ce que je crois important, c'est qu'il faut considérer effectivement que ce qui se passe au Qatar, ce qui s'est passé pour la construction des stades, sont des choses importantes qu'on ne peut pas passer sous silence. Mais alors, moi, ma position est aussi de dire s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde, on ne parlerait pas du Qatar. On ne parlerait pas de ce qui se passe au Qatar, parce qu'on n'a pas seulement construit des stades avec des ouvriers étrangers. Ils ont aussi construit bien des immeubles, bien des gratte-ciels.
Dans les mêmes conditions.
Dans des conditions très difficiles. Oui. Moi, fondamentalement... Tout ce qui est échange, tout ce qui est rencontre, il y a une foule de journalistes qui va être passée par là-bas, il y a une foule de personnes, il va y avoir eu des échanges. On voit bien quand il y a eu dans les pays soviétiques ou dans la Corée du Nord aujourd'hui, la seule manière pour que ça n'évolue pas et que les dirigeants restent, c'est de mettre des murs et qu'on ne se rencontre pas. Après, moi je respecte tout à fait la position de ceux qui disent « on boycotte ». Parce que de fait, ça dépasse l'entendement, le plan argent. Mais ça fait longtemps que le football dépasse l'entendement sur le plan argent. Mais peut-être qu'il faut une réaction de ce style et les deux sont peut-être nécessaires.
Alors dans ces grands événements sportifs, Guillaume, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, alors je voulais juste peut-être rebondir sur l'échange que vous évoquiez, la rencontre des cultures. Et peut-être même la rencontre des religions, puisqu'on a vu dès la cérémonie d'ouverture que le Coran a été finalement placé au cœur de cette cérémonie. Des versets du Coran ont été mis en scène et déclamés. Est-ce que c'est quelque chose de normal, puisqu'après tout on est au Qatar, en terre d'islam, ou est-ce que le mélange des genres entre sport et religion vous gêne peut-être ?
Alors, pour moi, il n'y a ni terre d'islam ni terre chrétienne. Donc voilà, il y a des religions majoritaires dans un pays, il y a une religion majoritaire, mais pour moi, on peut exercer sa religion sur toute la Terre, sur toute la surface du globe. Mais ce n'est pas tout à fait votre propos. Ce que je crois effectivement, c'est qu'on a, nous, notre petite laïcité à la française, des fois qui est un peu neutralisante, mais pour l'instant, on ne dit encore rien quand un joueur de football professionnel fait un signe de croix en France. Voilà, ils ont chacun leur religion. Après, j'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture et je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pense pas qu'il s'agissait d'imposer à tout le monde la religion musulmane.
D'imprimer peut-être quand même une certaine forme de voilà, de dire quand même que ça se passait...
Non, c'était un verset tout à fait bienveillant, signe d'ouverture, de rencontre des peuples.
Hein. Mais pas ça imprimait, ça donnait la couleur un peu quand même.
Mais qu'il y ait une dimension spirituelle, y compris dans le sport, dans l'échelle sportive, c'est évident. On essaie de dépasser ses limites, on s'engage de tout son être dans une relation avec les autres. Moi, ce qui me plaît dans le football aussi, c'est que c'est vraiment une religion universelle qui tisse des liens avec tous les pays du monde.
Et puis c'est cette forme aussi de communion hein, populaire qui dit aussi le besoin que l'on a de célébrer. Est-ce que pour l'homme religieux que vous êtes, Père Dominique, il y a là aussi quelque chose à prendre peut-être pour proposer dans l'Église plus d'événements sportifs, plus de célébrations finalement ?
Alors il se trouve que dans mon passé, j'ai eu l'occasion de participer à l'organisation ou d'organiser des grands événements, des célébrations, en particulier des célébrations au Zénith, au Zénith de Paris, au Palais des Sports là, de Paris-Bercy, donc une grande enceinte. C'était très intéressant parce qu'on voyait des choses qui pouvaient être un peu communes, des choses très différentes. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à convaincre que de ne pas faire le noir de salle. Vous savez, dans une salle, on met le public pratiquement dans la pénombre. Moi, j'ai dit, mais non, dans une église, nous, il faut que tout le monde soit éclairé.
Ça, c'est une différence importante, effectivement. Oui. Père Dominique Lebrun, merci beaucoup. Guillaume Lemoine, ravi d'avoir
Catherine.
Co-animé merci, ce temps d'échange autour du
Les
sport.
Bonnes coupes du monde.
Les bonnes coupes du monde, exactement. Merci beaucoup, Père Dominique.